c'est 23h minuit, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour, Christophe Cessieux.
Cyril Guimard, Luc Leblanc et Thierry Bourguignon qui sont à mes côtés pour évidemment revenir sur le coup de force, le tour de force d'un certain Chris Froome qui n'a pas remporté l'étape aujourd'hui, mais qui a une nouvelle fois marqué les esprits. Les adversaires de Froome doivent-ils désormais se concentrer sur la deuxième place? On accueille tout d'abord la Dream Team, emmenée par le sémillant druide international, j'ai nommé Cyril Guimard. Bonsoir mon cher Cyril.
Bonsoir.
Luc Leblanc qui s'est aujourd'hui mué en directeur sportif derrière Sylvain Chavanel qui a vécu la course. Ça va Lucho?
Oui, tout à fait.
C'était impressionnant, hein, c'est toujours impressionnant d'être
derrière. Oui, mais surtout quand on voyait les pointes de 90 km/h dans les descentes, c'était assez impressionnant à l'arrière.
Très bien. Thierry Bourguignon, lui, était tranquillement dans son fauteuil pour suivre la 11e étape du Tour de France. Il est avec nous, comme d'habitude. Salut Thierry.
Bonsoir messieurs. Mais pas dans son fauteuil.
Pas dans son fauteuil, non, non. Dans son canapé.
Au volant de sa voiture.
Très bien, tu nous as écouté. Alors, tu as écouté donc tout ce qu'on a dit. Bah tiens,
tout
tu nous as écouté.
Ce que vous aviez dit.
Écoute ça, c'était donc tout à l'heure l'arrivée de cette 11e étape et le sacre de Chris Froome, enfin le sacre de Tony Martin et la prise de pouvoir un peu plus affirmée de Chris Froome.
RMC, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour.
Le moment de vérité de cette 11e étape du Tour de France, premier chrono de cette grande boucle, 100e édition du Tour de France avec des premiers temps qui tombent et des premiers temps très intéressants, Fred, notamment le premier point intermédiaire pour Chris Froome à l'instant.
Avec le meilleur temps pour le maillot jaune britannique pour une petite seconde seulement sur le super spécialiste Tony Martin, Christopher Froome qui est bel et bien parti comme une balle. L'impression visuelle ne trompait pas. Christopher Froome qui compte pas moins de 26 secondes sur Alberto Contador au premier point. C'est le kilomètre 9,5 sur ce contre-la-montre qui en compte 33. Contador justement est passé au pointage numéro 2 à 11 km de l'arrivée avec un retard d'une 24 sur Tony Martin. Cet écart sur Martin devrait être à peu près la même que sur Christopher Froome si Froome reste dans les mêmes eaux que Martin. A priori, Christopher Froome assomme une nouvelle fois le tour.
Oh là là, c'est parti pour un nouvelle démonstration de force de Christopher Froome. Cyril, impressionné par la paire de Chris Froome. C'est vrai que tout à l'heure tu nous disais qu'on n'arrivait pas à voir s'il envoyait du lourd, mais là a priori le chrono montre que il est parti pour une grande
perf. Le chrono est la seule vérité. Le chrono est la seule vérité, mais c'est vrai que quand vous voyez un Cancellara, vous avez vraiment l'impression que ça va vite et ça bouge pas, il y a rien qui bouge. Avec Chris Froome, ben c'est un peu plus heurté, on va dire. Encore que j'ai l'impression quand même qu'au niveau du style, il semble un peu plus fluide maintenant qu'il y a deux ans, voire même l'an dernier. Mais ce qui est important surtout de constater, c'est que Contador a quand même perdu 59 secondes entre le premier pointage et le deuxième pointage sur Tony Martin. Donc si on prend la même dérive jusqu'à l'arrivée, il va perdre dans les 2 minutes 30 sur Froome.
Ça ressemble à ça effectivement. Fluide Christopher Froome effectivement. Lui qui n'a jamais remporté un contre-la-montre sur un grand tour, ce serait pour lui une grande première. Le Britannique qui avait terminé, on vous le rappelle, deuxième des deux Tours de France l'an passé derrière l'inévitable Bradley Wiggins. Lors du premier contre-la-montre à Besançon, il avait été battu de 35 secondes et à Chartres, il avait lâché 1 minute 16 sur son cher coéquipier Bradley Wiggins. Cette fois, peut-être que dans ce cadre majestueux, grandiose du Mont-Saint-Michel, il ira décrocher tout à l'heure sa première victoire contre-la-montre sur le Tour de France. Mais attention, rien n'est joué, on a quand même un chrono référence établi par le double champion du monde de la spécialité, double champion du monde en titre, Tony Martin, qui est toujours meilleur temps provisoire ici sur la ligne avec plus d'une minute d'avance sur Thomas De Gendt. Le premier français, c'est Sylvain Chavanel à la 6e place.
Alberto Contador qui se rapproche, qui a maintenant le Mont-Saint-Michel en ligne de mire et ça va peut-être lui donner des ailes. On rappelle qu'Alberto Contador se comporte plutôt bien dans ce chrono. Il avait tout à l'heure, après le point intermédiaire numéro 9, au premier point intermédiaire, il était à 9e place avec un retard de 25 secondes. Il est passé avec un retard de 1,24 au point numéro 2 et donc dans quelques instants, Alberto Contador qui va arriver ici sur la ligne d'arrivée au Mont-Saint-Michel. Il faut qu'il fasse, qu'il perde moins de 2 minutes, hein, Cyril, s'il veut espérer encore jouer un rôle dans ce Tour de France. 2 minutes, 2 minutes 30. Cyril ? Cyril.
Oui, c'est le minimum qu'il doit... Enfin, c'est le maximum qu'il peut se permettre de perdre, mais je crains quand même qu'il en perde un peu plus. Et puis, à chaque fois, on voit que quand nous sommes dans une explication clé, comme l'arrivée au sommet d'un col ou une grande étape de montagne ou un grand contre-la-montre, il est en retrait sur tous les rendez-vous.
Ouais. Il est en retrait aujourd'hui, Alberto Contador, mais il va tenter de limiter les dégâts, alors que Quintana va en terminer dans quelques instants, le porteur du maillot blanc, qui va être à la bagarre avec Kwiatkowski, son rival polonais. 3,27 de retard pour Quintana. C'est lourd, c'est très lourd pour Quintana, qui va reculer au général.
Hein. Et qui va du coup perdre très vraisemblablement son maillot blanc. De meilleur jeune. On fera les comptes dans quelques instants, mais Nairo Quintana effectivement a pris un courant d'air en lâchant plus de...
Ouais, 1,31 pour Kwiatkowski de retard, et lui il est à 3,27, donc il y a 2 minutes d'écart entre Quintana et Kwiatkowski, c'est pas facile à dire, mais le Polonais devrait tout à l'heure revêtir le maillot blanc.
Oui, c'est confirmé.
Alberto Contador qui passe sous la flamme rouge, Fred.
Alberto Contador avec le Mont-Saint-Michel en perspective. Dans 700 mètres maintenant, il va faire demi-tour au pied de ce magnifique monument. Le Tour de France des cartes postales continue et Alberto Contador n'a pas le temps d'admirer le paysage. Lui qui lâche au deuxième point intermédiaire à 10 km de là, qui lâche 1,24 sur Tony Martin et probablement à peu près le même débours sur son principal rival pour la victoire finale, Christopher Froome. Ultime virage pour Alberto Contador, un demi-tour, un 180 degrés.
Il faut faire attention, c'est dangereux. Hein.
Ouais, c'est vanté. Ultime rampe à 500 mètres de la ligne d'arrivée pour Alberto Contador, totalement exposé au vent sur cette route au bord de la baie du Mont-Saint-Michel. Le décor est magnifique, mais il va terminer au-delà de la 10e place et il va lâcher plus de 2 minutes sur Tony Martin. Il ne pouvait pas espérer mieux, lui qui avait tout de même terminé le contre-la-montre du Dauphiné il y a un mois à la 60e place. Il sera mieux aujourd'hui, mais il n'a pas fait de miracle, Alberto Contador, double ou triple vainqueur du Tour de France, c'est selon lui, qui va terminer à l'instant à 2 minutes 14, presque 2 minutes 15 de retard sur Tony Martin. Alberto Contador qui n'est plus l'extraterrestre qu'il était.
Il est là, Chris Froome, qui vient de réaliser une nouvelle fois le meilleur temps au point intermédiaire numéro 2. Confirmation, il est dans un grand jour, le maillot jaune.
Meilleur temps pour le maillot jaune, Christopher Froome, le Britannique, qui devance, et eh bien il est dans les mêmes eaux que Tony Martin. Encore une fois, il devançait Martin d'une seconde au premier point intermédiaire. Cette fois, il devance l'Allemand de 2 secondes. Ça veut dire qu'Alberto Contador lâche 1 minute 26 sur Christopher Froome. C'est exactement ce à quoi on s'attendait. Alberto Contador qui lâche sur Tony Martin sur la ligne d'arrivée 2 minutes 15. Ça veut dire que Christopher Froome, s'il reste sur ce rythme-là, comptera 2 minutes 20 d'avance sur l'étape sur Alberto Contador et pourrait donc repousser Alberto Contador à près de 4 minutes au classement général.
Et Tony Martin, toujours auteur du meilleur temps de cette 11e étape du Tour de France, s'inquiète, et il a raison de s'inquiéter, car sur la route qui mène vers le Mont Saint-Michel, un extraterrestre vêtu de jaune, il se nomme Chris Froome, et pour l'instant il est en train de faire exploser tous les chronos. Fred Adam, on attendait Chris Froome à ce niveau de performance, peut-être pas à un tel niveau, parce qu'il est vraiment impressionnant cet après-midi.
Qu'on n'aime pas entendre le terme d'extraterrestre dans le vélo, et pourtant Christopher Froome, capable d'assommer le Tour de France dès la première étape de montagne, est en train d'enfoncer le clou aujourd'hui entre Avranches et le Mont-Saint-Michel sur sa machine noire et jaune, parfaitement profilée, casque jaune, combinaison presque intégrale jaune. Le leader du classement général compte 2 secondes d'avance sur le super spécialiste allemand Tony Martin, double champion du monde en titre du contre-la-montre, au point numéro 2, c'est-à-dire à 11 km de l'arrivée ici au pied du Mont-Saint-Michel. Sachez qu'Alberto Contador en a terminé avec 2 minutes 15 de retard sur Tony Martin ici sur la ligne. Son débours sur Chris Froome devrait être dans les mêmes eaux. Cela veut dire que Christopher Froome est bel et bien le roi du 100e Tour de France.
Le roi du 100e Tour de France, un roi qui sera sacré dans 10 jours maintenant sur les Champs-Élysées. Cyril, s'il met tous ses adversaires, et c'est bien parti pour le faire à plus de 2 minutes, on voit mal ce qui pourrait lui arriver d'ici l'arrivée sur les champs. La victoire lui semble promise d'ores et déjà.
Bien, je ne sais pas si elle est promise, hein, méfions-nous. Hein. On a déjà eu d'autres expériences qui pouvaient faire en sorte que l'on doit,
oui,
toujours, que l'on doit toujours douter.
Une chute dans un col.
Mais c'est pas 2 minutes, parce que je suis en train de regarder un petit peu les classements. Là. Le deuxième va être à 4 minutes ce soir. Et le deuxième, ça sera sans doute Contador ou Valverde.
Valverde lâche 1 minute 27 au deuxième temps, au deuxième point, c'est-à-dire qu'il va lâcher comme Contador 2.15, 2.20 sur la ligne d'arrivée, lui qui pointait à 1.25.
Voilà, c'est la raison pour laquelle je disais qu'on va retrouver entre les coureurs comme Valverde, Mollema, Tendam, Kreuziger et Contador à plus de 4 minutes au classement général. Et là, je vous repose la question, messieurs, est-ce que la Movistar et la Saxo Bank n'ont pas raté la chance qui leur était proposée dans l'étape de Bagnères de Bigorre?
Oui, peut-être. C'est vrai que
c'est même sûr.
Oui, c'est sûr. Mais bon, est-ce qu'ils auraient vraiment fait la différence? Est-ce qu'ils auraient pu mettre à mal?
Ils auraient pu essayer. Effectivement. Si vous tentez rien, vous êtes à 4 minutes maintenant. Vous allez tenter quoi?
Ah, mais c'est sûr qu'il n'y a plus grand-chose à tenter. On va pouvoir rentrer à Paris tranquille. Mais ça tombe bien. J'ai plus d'affaires propres, donc c'est très bien. Christopher Froome qui se rapproche de ce beau rocher du Mont Saint-Michel. Il faut surveiller tout de même les temps des deux Néerlandais classés respectivement 3e et 4e. Ce matin au général, à savoir Mollema et Tendam.
On a terminé avec 2 minutes 32 de retard.
C'est pas énorme.
Sur Tony Martin. Ce n'est pas énorme, c'est exactement dans la droite ligne de ses performances. Lui qui est un coureur vraiment besogneux, il l'a encore montré en franchissant la ligne d'arrivée. Le cliché est beau pour l'histoire, mais esthétiquement, Laurens Tendam, on fait mieux et c'est un coureur qui a la particularité. Vous n'êtes pas encore à l'heure du déjeuner là, pas du tout, c'est peut-être le goûter, mais c'est vrai que c'est un coureur qui a souvent la bave qui coule à la bouche,
la bave aux lèvres.
Et c'est vrai que c'est assez révélateur de sa débauche d'énergie. C'est un coureur qui ne rechigne pas, qui se livre à fond, ce fut le cas aujourd'hui, mais il lâche plus de 2 minutes 30 sur Tony Martin et ça devrait être à peu près le même débours pour Tendam sur Christopher Froome.
Voilà, Mollema maintenant qui va en terminer à son tour, 3e ce matin au classement général. Mollema qui donne tout dans les derniers mètres avant de franchir la ligne d'arrivée. Il est un petit peu désuni avec la tête qui dodeline de droite et de gauche. Mollema qui va en terminer. Le retard sera aux alentours aussi des 2 minutes pour le Néerlandais. 3e au général, le dernier virage pour Mollema. Virage sur la gauche, il va en franchir la ligne dans quelques instants pour Bokke Mollema, qui est l'une des révélations de ce Tour de France. Restera-t-il sur le podium tout à l'heure? Voilà, dans quelques instants, le temps du Néerlandais, Fred.
La réponse est oui, il restera sur le podium et peut-être peut-il monter à la 2e place. 2 minutes 4 de retard pour Bauke Mollema sur Tony Martin. Il va falloir que Valverde se presse pour conserver sa 2e place au classement général, puisqu'on vous rappelle qu'il ne comptait que 19 secondes d'avance sur le 3e Mollema. Valverde qui devra donc faire mieux que perdre 2 minutes 23 sur Tony Martin.
Ça sera dur. Hein.
Oui. A priori, c'est mission impossible. Ouais. Et Bauke Mollema, le Néerlandais, a vraiment de grandes chances de
monter
sur...
Il faudra qu'on s'y intéresse, ce garçon. Connu, c'est là qu'on
en parle, Christophe, quand même.
Bien sûr. S'il devient dauphin de Christopher Froome, je pense que tous les Pays-Bas doivent être en fusion aujourd'hui. Ils seront dans l'ascension de l'Alpe d'Huez dans quelques jours, dans le virage des Hollandais. Il va y avoir du orange de sortie.
La tronche, la gueule de Tony Martin qui est en train d'attendre depuis 3 heures maintenant que quelqu'un vienne l'inquiéter. Il pensait avoir gagné la partie sur ce contre-la-montre qui lui convenait parfaitement. Aucune difficulté, 33 kilomètres vantés entre Avranches et le somptueux Mont-Saint-Michel. Tony Martin qui a 2 secondes de retard sur Christopher Froome au point numéro 2 à 11 kilomètres de l'arrivée.
Alors on va voir ce que ça va donner. Est-ce que Chris Froome a conservé le même rythme dans les 11 derniers kilomètres alors qu'Alejandro Valverde passe à son tour sous la flamme rouge indiquant le dernier kilomètre? Alejandro Valverde, dont la 2e place au classement général est menacée par Mollema, qui a donc terminé il y a quelques instants avec un retard de 2.04 sur Tony Martin. Valverde qui va tout donner dans les derniers mètres de cette étape avec un virage à 180 degrés et ensuite la dernière ligne droite pour Valverde qui n'est pas un spécialiste du chrono.
Non, ça n'est pas le grand spécialiste du chrono. Il a fait lui aussi de très bonnes performances à ce niveau-là, mais c'était avant de partir en vacances pour un certain temps. Depuis, il a un petit peu reculé dans cet exercice et rappelons quand même que l'exercice de vérité, le contre-la-montre, eh bien le facteur limitant, c'est la VO2 max et certains produits justement agissaient sur la VO2 max.
Très bien, Valverde Valverde qui est parti en vacances avec une longue, très longue suspension. Il est revenu. Il était ce matin deuxième au général. Va-t-il conserver tout à l'heure sa place de dauphin de Chris Froome sur les routes de ce Tour de France? Ça semble difficile, Fred.
Alors que Chris Froome, on vous le rappelle, est en train de réaliser un numéro et il n'est bientôt plus le seul à en terminer. Alejandro Valverde doit passer avec moins de 2 minutes 23 de retard sur Tony Martin. Il lâche 2 minutes 11 et garde pour quelques secondes sa deuxième place sur Bauke Mollema. 2 minutes 11 de retard pour Alejandro Valverde sur Tony Martin. Performance plus qu'honorable pour l'Espagnol de la Movistar.
Alors que la flèche jaune est passée déjà depuis bonne lurette sous la flamme rouge indiquant le dernier kilomètre, il ne reste plus que 500 mètres, même pas, à franchir pour notre ami Chris Froome qui va de plus en plus vite et qui va abattre sans doute le temps de Tony Martin dans quelques instants. On a évidemment l'œil rivé sur les chronomètres, Fred.
Ça va se jouer à rien puisqu'au premier point intermédiaire, il ne comptait qu'une seconde d'avance sur Tony Martin. 2 secondes à 11 km de l'arrivée. Comment a fini Christopher Froome qui n'a plus que 5 secondes pour en terminer? Sans doute sera-t-il battu par Tony Martin. Ça va vraiment être touchy pour Christopher Froome qui va être battu pour une dizaine de secondes. Apparemment, il a levé le pied sur la fin ou payer son départ supersonique.
11 secondes de retard.
Deuxième place pour le maillot jaune Christopher Froome. Comme lors de ses deux derniers contre-la-montre du Tour de France l'an passé, il s'était cassé les dents sur les performances de Bradley Wiggins à Besançon et à Chartres l'an passé. Et bien là, il est tombé sur plus fort, plus puissant, plus rouleur que lui. Tony Martin remporte à 28 ans sa deuxième étape sur le Tour de France. L'Allemand, double champion du monde en titre du contre-la-montre, qui après sa victoire sur le contre-la-montre de Grenoble en 2011 ajoute donc un deuxième contre-la-montre individuel à son palmarès, plus beau esthétiquement assurément puisqu'il s'achève devant le Mont-Saint-Michel. Tony Martin qui devance de 12 secondes Christopher Froome, d'une minute une Thomas De Gendt. Richie Porte est quatrième, le premier français c'est Sylvain Chavanel à la 7e place. Notez la 13e place d'Alejandro Valverde qui lâche 2 minutes 12. Alberto Contador est 15e à 2 minutes 15. Bauke Mollema lâche 2 minutes 05. Lorenz Ten Dam, lui, est pointé à 2 minutes 32. Et puis notez la 19e place de Jean-Christophe Perrault, premier français du classement général. Il est à 2 minutes 22, beaucoup plus loin au classement général. Le maillot jaune est évidemment plus que jamais toujours sur les épaules de Christopher Froome. Changement de casaque blanche du meilleur jeune, puisque Michał Kwiatkowski, le Polonais, s'empare du maillot de meilleur jeune au détriment de Nairo Quintana, le grimpeur colombien qui a payé la note aujourd'hui évidemment sur ce parcours vanté de 33 km.
Voilà, la logique a donc été respectée. Tony Martin, le meilleur chronoman du peloton international, remporte cette étape, mais évidemment l'information du jour c'est que Chris Froome est là au contact de Tony Martin et loin, loin devant tous ses rivaux pour la victoire finale dans ce Tour de France. Cyril, impressionnant Chris Froome, même s'il a légèrement levé le pied sur la toute fin de parcours, mais il met tous ses adversaires à plus de 2 minutes ou aux alentours des 2 minutes, et notamment Alejandro Valverde qui est à 2 minutes pile derrière Chris Froome. Évidemment, ça va peser lourd dans le classement général puisque Chris Froome est désormais leader avec 3 minutes 25 d'avance sur Valverde, 3.37 sur Mollema, 3.54 sur Contador, 3.57 sur Kreuziger. Tendam est 6e à 4.10, le premier français Jean-Christophe Perrault 10e avec un retard conséquent. Là c'est vrai qu'il a une nouvelle fois frappé un grand coup sur la tête de tout le monde, notre ami Chris Froome, Cyril.
Oui,
concentré aujourd'hui.
Ah mais si, totalement. Je suis tellement concentré que j'ai du mal à comprendre que Frédéric et vous, mon cher Christophe, vous imaginez un seul instant Froome a levé le pied dans le final. J'ai encore jamais vu un coureur lever le pied dans le final pour perdre une étape.
C'est une question de sémantique. Mon cerveau m'a dit accuser son départ supersonique. Mes lèvres ont prononcé le mot lever le pied.
Pas lever le pied. Le rythme est un petit peu moins enlevé. Excusez-nous, mon cher Cyril, de ne pas utiliser le vocabulaire adéquat. Allez-y, mon cher.
Je crois que c'est moi qui ne dois pas l'utiliser. Alors.
Allez-y.
Parce que lever le pied, ça veut dire ralentir.
Faites, faites votre démonstration. Donc,
je n'ai pas de démonstration à faire. Seulement que sur le parcours des derniers kilomètres qui est totalement plat, eh bien, Froome a été limité par rapport à la puissance d'un Tony Martin. Il a perdu 14 secondes sur les 11 derniers kilomètres. Ça fait à peu près un tiers de seconde au kilomètre, ce qui est quand même relativement faible. Et ce qu'il faut retenir surtout, c'est que bien, tous ses adversaires aujourd'hui vont avoir l'obligation de reprendre 4 minutes. Et grand point d'interrogation, si vous pouvez me le dire, expliquez-moi où. Est-ce que c'est dans le Mont Ventoux ou est-ce que c'est dans le contre-la-montre des Embruns, à Embruns, pardon, et un contre-la-montre qui lui sera beaucoup plus favorable. Mais une chose est certaine, on a quelque chose de très clair dans ce contre-la-montre et de très clair au classement général.
RMC, 23h minuit, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour, Christophe Cessieux.
La victoire de Tony Martin, donc le spécialiste de l'effort solitaire, lui qui, rappelons-le, est champion du monde, qui avait terminé médaille d'argent l'année dernière aux Jeux de Londres dans ce même exercice et qui, en début de Tour de France, a bien failli abandonner à la suite d'une chute. Je ne sais pas si vous avez vu la photo de Tony Martin, le dos et les fesses de Tony Martin, il ne reste plus beaucoup de peau dans toute la face antérieure et pourtant, eh bien aujourd'hui, il a montré qu'il restait un formidable rouleur, il s'impose dans cette étape avec 12 secondes d'avance sur Christopher Froome et ensuite c'est ensuite que les écarts sont importants puisque Chris Froome a vraiment semé la concurrence aujourd'hui. Cyril, tous les autres sont à plus d'une minute, voire deux minutes hein, plus exactement, hein. Je crois que j'avais noté Mollema à 1.53, Valverde à 2 minutes, Contador à 2.03, Perrault à 2.10 ou encore Cadel Evans à 2.18, sans parler de Andy Schleck qui lui est complètement aux pâquerettes, sinon aux fraises. Alors, le débat évidemment de ce soir, les adversaires de Froome doivent-ils désormais se concentrer sur la deuxième place ? Parce que la première, franchement, mis à part un incident, un saut de chaîne, une chute dans un ravin, une benne qui se renverse au passage de Chris Froome, on voit mal comment il pourrait perdre le Tour de France.
Bien, sur ce que l'on a vu sur les deux étapes pyrénéennes, et puis ce que l'on a vu donc sur cette étape contre la montre, je ne vois pas très bien où ses adversaires pourront le déstabiliser. Je ne pense pas que ce soit dans la montée sèche du Mont Ventoux. Deux jours après, il y a encore le contre-la-montre de Embruns, où là, il risque encore de prendre, de faire des écarts. C'est même évident. Parce qu'on s'est rendu compte que l'opposition, finalement, n'avait pas aussi de consistance que ce que l'on pouvait supposer au départ du Tour. Alors, on parlait beaucoup de Contador. Personnellement, j'étais un petit peu sceptique. Puis, on s'aperçoit que l'homme qui est le plus fort dans l'opposition, c'est Valverde. Valverde, qui a repris la compétition l'an dernier après un arrêt de 2 ans et qui n'a jamais retrouvé, comme Contador d'ailleurs, son véritable niveau après son retour. Rappelez-vous, en 2008-2009, il gagnait le Tour d'Espagne.
Pas retrouvé son niveau, mais deuxième du Tour de France aujourd'hui, c'est quand même un bon niveau, non ?
C'est un bon niveau, mais n'oubliez pas qu'il
n'a jamais été en mesure de gagner le Tour de France, Valverde.
Oui, il a quand même gagné le Tour d'Espagne. Il a gagné 2 fois le Critérium du Dauphiné, Liège-Bastogne-Liège, il a un palmarès, mais ça, c'était avant. Et on se rend compte que l'opposition, même si elle paraissait riche, n'est pas aussi, aussi virulente qu'elle était. Et quand elle pouvait l'être, elle ne l'a pas été lorsque Froome s'est retrouvé seul, où il a couru, c'est vrai, avec beaucoup de sérénité, beaucoup d'intelligence, parce qu'il était aussi sûr de sa force et que de toute façon, on n'allait pas lui prendre 5 ou 6 minutes. Mais ses adversaires, ce jour-là, ont déjà capitulé, puisqu'il courait déjà pour la deuxième place. Donc pour revenir au débat, oui, les adversaires de Chris Froome court aujourd'hui pour la deuxième et troisième place du podium.
C'est bien, on est à mi-tour, comme ça, Lucho de courir déjà pour la deuxième ou la troisième place. Non, c'est un peu tristouné, ça. Mais oui, bon, c'est important aussi de terminer sur le podium.
C'est triste, mais bon, les autres l'ont bien voulu aussi. Hein. Ils avaient l'occasion de pouvoir peut-être renverser le tour il y a quelques jours dans la dernière étape des Pyrénéennes. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait, comme le dit Cyril. Mais on est en train de se tourner maintenant vers la dernière partie du tour en voyant les autres favoris, les autres leaders se batailler pour la deuxième place. Et Froome va se friser les moustaches dans les prochains jours.
Thierry, tu veux pas nous remonter le moral, toi ? Je sais pas, ton canapé à Avignon, là ?
Eh ben non, parce que dès le départ, j'ai l'impression que au départ du tour, ils savaient qu'ils jouaient.
Mais on nous aurait menti avant
place.
Le départ du tour. On nous aurait menti.
La première étape des Pyrénées. Ils ont
mais
fait
non, mais,
que.
Mais alors pourquoi on a fait des tonnes comme ça sur ouais Froome, il y a une vraie adversité, il y a Contador qui va être au niveau, il y a Valverde, il y a Andy Schleck, il y a Cadel Evans, c'est incroyable, un plateau magique. Mais non, le plateau il est là. Le plateau c'est un plateau froid aujourd'hui.
Attention, Christophe. Et tous ceux que tu viens de citer, ils se tiennent dans très peu de temps.
Pour la deuxième place, ils sont bien. Ouais.
Mais oui, mais c'est Froome qui est au-dessus des autres. Mmh. Voilà, c'est tout. C'est tout. Les autres, on a vu de suite, dès la deuxième étape des Pyrénées, que déjà, ils avaient choisi leur camp. Ils jouaient la deuxième place parce que y avait une moto qui était Froome et les autres en vélomoteur. Et voilà. Et donc, contraint et forcé de jouer à deuxième place. Et on l'a vu, avec Valverde. Bon, le problème, c'est que Valverde, tu disais, il est deuxième au général, mais il a quoi ? Il a 10 secondes. Il a 12 secondes sur Mollema. Mm-hmm. Il a guère plus sur Contador, Cruziger.
Ah non, mais ils sont 6 en 1 minute.
Ils se tiennent tous. Ils sont 6 en 1 minute. Dimanche, Valverde a joué à la deuxième place, mais il va la perdre. J'en suis persuadé.
Bon. En tous les cas, ça va nous faire un beau suspense pour la deuxième place. Et on va écouter justement Alejandro Valverde pour savoir ce qu'il pense de tout ça. Est-ce qu'il faut jouer le podium ? Est-ce qu'il faut jouer la deuxième place ? Ou est-ce qu'il faut, pourquoi pas, rêver d'une victoire sur le Tour de France ? Alejandro Valverde.
C'est sûr que perdre encore 2 minutes sur Chris Froome, c'est vraiment beaucoup. Mais je pense que ce qui est sûr maintenant, c'est qu'il y a Froome et les autres, comme moi, qui vont lutter pour le podium. Mais bon, je dois me satisfaire de ça. On peut lui reprendre un peu de temps, mais on a vu dans les Pyrénées que même tout seul, il tenait bon. Il est vraiment très fort et ça va être trop compliqué.
Ça va être trop compliqué, nous dit
Valverde. Ils n'ont même pas conscience d'avoir fait une connerie dimanche. Mais c'est grave.
Oui, enfin, ils ont conscience qu'ils sont battus, surtout. Hein. C'est
Soir, mais c'est dommage. Ouais. C'est dommage, parce que comme ça, on n'y arrivera pas.
Oui, non, mais c'est vrai que on en parlait tout à l'heure dans le direct. C'est vrai qu'on aurait aimé assister à des attaques. Je ne sais pas si ça aurait changé grand-chose, vu la supériorité de Chris Froome, mais au moins, on en aurait eu le carnet. Là, on n'en a même pas le carnet. Tiens, Christian nous appelle au 32-16. Christian qui voulait nous parler de Froome et de ses adversaires. Christian, les adversaires de Froome se contenter de la deuxième place, ils doivent lutter pour la deuxième place aujourd'hui, c'est pour la victoire, c'est fini.
Oui, bonsoir tout le monde.
Bonsoir.
Je suis content de vous parler depuis la Savoie. Écoutez, moi j'ai été épaté d'un point de vue sportif par la performance de Chris Froome, qui semble dominer de la tête et des épaules cette compétition, le Tour de France. Quant à dire qu'il a gagné, je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment, parce que il me semble que son équipe n'est pas à son niveau. Alors pourra-t-il tout seul arriver aux Champs-Élysées dans un fauteuil ? C'est la question que je me pose. Peut-être aura-t-il un coup de moins bien dans les côtes sévères de Ventoux, de l'Alpe d'Huez. Et voilà quoi. Ce n'est plus le train bleu de l'US Postal. Ce n'est plus la Banesto d'Indurain. C'est tout à fait différent. Et tout seul, je sais pas. Je me pose la question.
Bon, on en parlait hier soir. C'était le thème de notre débat. Est-ce qu'il peut gagner sans équipe ou sans équipe très forte? On a vu qu'aujourd'hui une partie de son équipe s'était refait un peu la santé, notamment Porte, Richie Porte, qui termine quatrième de l'étape, c'est pas mal pour quelqu'un qui était mourant il y a trois jours dans les Pyrénées.
Son équipe a été durement touchée par les chutes, il faut quand même le dire, et que là progressivement tout le monde est en train de revenir à son meilleur niveau, et je ne suis pas certain, d'autant que je pense qu'ils vont quand même et ils l'ont vraisemblablement fait, tirer les enseignements de l'étape de Bagnères de Bigorre. Parce que je pense qu'ils ont été un peu
trop... Quand on a 3 minutes 25 d'avance au général, est-ce qu'on court pas différemment de...
Mais ils vont devoir courir différemment et pas faire ce qu'ils ont fait dans le porté d'Aspet et dans le col de Mantes, où ils se sont littéralement grillés. Et là, ils ont été trop gourmands. Mon avis, ils ont voulu la faire comme l'an dernier, parce que tout le monde était au top l'an dernier. Et il y avait en plus Froome qui était quand même équipier, qui a fait 2 du tour. Donc... ils ont voulu faire la même chose, sauf que les coureurs n'étaient pas au niveau. Il y en a un qui a avant... y en a un qui a abandonné, il y en a deux qui traînaient leur misère, et pas n'importe lesquels, Garin Thomas et Stannard, et puis derrière un ou deux qui sont pas bien, Kenoff qui tombe, et Richie Porte qui est pendu. Donc derrière, il restait plus que Boasson Hagen, qui lui avait mal digéré aussi le départ. Donc ils vont tirer les enseignements de cela, et en les tirant, maintenant qu'ils ont quand même 4 minutes d'avance, on peut dire entre 4 et 6 minutes d'avance sur les suivants immédiats jusqu'à la 10e place, ils n'ont pas à s'énerver, ils n'ont pas à paniquer, qu'ils restent groupés et ils rentreront toujours à un moment ou à un autre. Et même s'ils perdaient une minute, il faut savoir que c'est par 2 minutes qu'ils ont d'écart d'avance théorique. Il y a le Ventoux, ils ne vont quand même pas lui reprendre du temps. Et dans le prochain contre-la-montre, ils vont en perdre. Donc c'est pas, aujourd'hui, ce n'est pas 4 minutes d'avance qu'il a. C'est à peu près 7. Donc on n'a pas à paniquer quand on a 7 minutes d'avance. Ouais. Et je peux vous dire que, personnellement, avec les écarts et ce qui reste à faire, si j'étais à la place de notre ami Nicolas Portal, je ne serais pas trop inquiet, même s'il ne faut jamais mésestimer l'opposition.
Très bien. Oui. Thierry, non,
je m'interroge toujours sur l'attitude de Porte.
Ouais.
Richie Porte fait le chrono à bloc. Pourquoi se met-il à fond pour un chrono alors qu'il y a un maillot à défendre? Sont-ils persuadés que Christopher Froome se défendra tout seul? J'ai l'impression que comme l'erreur qu'il a fait dans les Pyrénées, il l'a reconduit. Je ne sais pas ce que Christophe...
Nicolas, Chris... Enfin bref.
RMC, 23h minuit, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour, Christophe Cessieux.
Toujours au pied du Mont-Saint-Michel, à l'issue de cette 11e journée du Tour de France, qui a donc vu aujourd'hui Tony Martin, l'Allemand, s'imposer dans le premier contre-la-montre individuel de ce tour. Il s'impose avec 12 secondes d'avance sur Chris Froome. Chris Froome qui sème la concurrence, puisqu'il est désormais ce soir leader de ce Tour de France, avec 3 minutes 25 d'avance sur son premier dauphin, l'Espagnol Valverde, 3:37 sur Mollema, 3:54 sur Contador, les autres sont encore un peu plus loin. Et le premier français se nomme Jean-Christophe Perrault. Il est ce soir 10e à 5 minutes 39 du maillot jaune du Tour de France. Alberto Contador battu aujourd'hui. Alberto Contador, tout comme Cadel Evans et Andy Schleck. Cyril, ils sont très loin. Cadel Evans, je ne l'ai même pas cité dans les chronos, mais là, il est arrivé très très loin. Et puis, sans parler de Andy Schleck, qui est complètement largué. Et au général, il est à plus de 6 minutes, je crois. Bref. Le débat est simple, Contador, Evans ou Schleck, qui sont tous les trois des anciens vainqueurs du Tour de France, sont-ils des hommes du passé ou ont-ils encore une chance à l'avenir de remporter un Tour de France ou de jouer un rôle principal? On va commencer avec Lucho, tiens, tu vas nous donner ton avis là-dessus. Contador, Schleck, Evans, hommes du passé ou hommes toujours du présent?
C'est une génération qui est en train de se retirer petit à petit, parce qu'on se rend compte que les Schleck, Contador, Evans ne sont plus les mêmes depuis il y a quelques années.
Schleck n'est pas très vieux non plus.
Oui, mais Schleck n'est pas très vieux, mais bon, il est un ton en dessous, alors à voir si l'année prochaine il va se remettre en question une bonne fois pour toutes et puis reviser le classement général du Tour de France. Mais en attendant, quand tu regardes les Contador, Evans et consorts, même Valverde, même s'il est deuxième au classement général, il y a une page qui se tourne et il y a une nouvelle génération qui est en train d'arriver tout doucement avec Kreuziger, Mollema, Tendam peut-être aussi, qui tournent autour des 26-27 ans.
Kwiatkowski
aussi, donc voilà. Il y a une petite génération qui est en train d'arriver, mais il leur faut le temps de faire leurs preuves encore. Mais voilà, ils sont en train d'effacer petit à petit.
Pour les autres, c'est fini. Pour les autres, c'est fini. Génération. Cyril, c'est vrai que depuis le début de ce tour, tu nous dis ouais, Contador, et tu nous l'as dit tout au long de l'année, hein, tu n'étais pas du tout convaincu par les résultats de Contador. Ça se confirme malheureusement pour lui sur le début de ce Tour de France. Il n'est plus au niveau d'avant sa suspension. De là à dire que c'est un homme du passé, c'est peut-être aller un peu vite en besogne.
Je pense quand même que c'est un homme du passé au niveau des grands exploits sportifs. Il ne refera jamais ce qu'on l'a vu faire, c'est-à-dire monter les cols aussi vite, avoir des capacités d'accélération tous les 500 mètres. Ça, c'est terminé. Il faut se rééduquer à courir, on va dire, au vitel. Et c'est vrai qu'un certain nombre de coureurs qui ont été... Et c'est pour ça que les coureurs de plus de 30 ans qui ont été un petit peu dans la génération où ça bricolait pas mal, ont du mal aujourd'hui à se surpasser. Et donc, ils sont toujours présents, c'est vrai, parce qu'il y a du métier, il y a du professionnalisme aussi derrière, il y a aussi des équipiers qui font le travail, mais ils n'ont plus ce petit quelque chose qui fait qu'on est qu'ils étaient capables de faire mieux, et maintenant ils ne peuvent plus faire la différence. Alors c'est vrai pour Valverde qui, ceci dit, marche pratiquement à son meilleur niveau qu'il a été sur le Tour de France,
mais
il ne sera jamais mieux qu'il est là. Donc il ne peut que régresser. Cadel Evans, qui lui, bon, arrive du VTT. Bon, je crois que ses grands coups sont faits. Il a gagné le Tour il y a 2 ans. Et il arrive aussi à 37-38 ans. Bon, là, il n'y aura pas de, miracle. Donc Cadel Evans, c'est fini. Reste le cas, entre guillemets, ou avec un point d'interrogation ou un point d'exclamation, reste le cas Andy Schleck, qui a remontré des belles choses par rapport à ce qu'il est. Ce qu'on pensait qu'il était capable de faire, il a fait beaucoup mieux. Il faut, lui, qu'il retrouve suffisamment de jours de compétition. Il faut qu'il retrouve la motivation, Cyril. Cette motivation qu'il a un petit peu retrouvée sur ce Tour de France. Mais le seul qui peut encore revenir à un très bon niveau, c'est effectivement lui. Sauf qu'il avance pas contre la montre. Et que pour gagner le Tour de France, il faut avancer contre la montre. Et qu'on le reverra, à mon avis, faire des grands numéros dans les grandes étapes de montagne. Mais pour gagner le Tour, je pense qu'on peut faire une croix dessus. Quoi.
Très bien. Thierry, tu partages la même analyse que Cyril. Trois hommes du passé, trois hommes qui vont disparaître petit à petit des palmarès du Tour de France.
De toute façon, Contador, Valverde, 31-33, c'est l'année. Du moins, c'est les grandes années au bricolage, Cyril le disait. Bon, ils ont été pris tous les deux, ils reviennent après suspension, mais ils reviennent beaucoup moins bien. Bon, après, on voit que la jeunesse a du mal à percer quand même, hein, puisque Kruziger, Mollema...
Kruziger n'est pas très jeune.
Non plus, Mollema, 27 ans. Mollema,
27,
Kruziger, 27. On a quand même des gars d'un certain âge dans les 10 premières places. Et on n'a pas la lueur d'un jeune
Kwiatkowski,
premier.
Kwiatkowski, 7e du Tour de France.
Oui.
7e. Bon, on a Peter Sagan quand même qui fait 17e, c'est quand même à noter, hein, 17e de l'étape aussi, Peter Sagan.
Oui, non, mais bon, c'est chrono, c'est un bon rouleur aussi, c'est un bon sprinter, ça reste quand même un gars qui arrive à se surpasser. Mais la Cadel Evans, moi je dis qu'il est... C'est l'ancienne génération, hein, même s'il est arrivé tard dans le vélo, Cyril l'a dit.
Cadel Evans, c'est fini. Hein.
Cadel Evans, oui, déjà
on l'année dernière. Déjà l'an dernier,
on sentait qu'il était.
Mais c'est un garçon qui s'accroche.
Mais Andy, moi, je le vois pas, oui, comme dit Cyril, faire des numéros sur une journée ou deux, mais sur le général, prendre 6 minutes sur une étape de chrono de 32 km, c'est impossible. Ouais. Même s'il progresse un peu, il aura toujours les 3 minutes dans la tête.
Très bien. Christophe nous appelle au 32-16, justement. Il voulait intervenir sur ce sujet. Bonsoir, Christophe.
Bonsoir.
Bon, alors, hommes du passé, ces trois-là, est-ce qu'ils ont encore un avenir rayonnant dans le Tour de France ?
Je ne sais pas si je peux me permettre, parce que le dopage est toujours tabou. Mais pour moi, Valverde et Contador, à l'heure actuelle, sont clean.
Oui.
Je ne sais pas si vous entendez ce que je veux dire. Mm-hmm. Mais...
On est persuadé qu'ils le sont aussi, parce que je ne sais pas si vous voyez la batterie et les outils dont on dispose pour dépister. D'ailleurs, la preuve, ils sont tombés. Non, aujourd'hui, ils sont clean, ça c'est clair.
Voilà, pour moi, ils sont clean. Mais maintenant, avec l'avancée dans le dopage, pour moi, un gars comme Froome, on saura dans 3-4 ans, comme je dirais au standardiste, qu'il n'est pas forcément clean. C'est ça le problème. Et encore une fois, il n'y aura pas de vainqueur pour le 100e Tour de France, et c'est ce qui me déçoit un petit peu.
Oui, enfin, il faut faire attention.
Ajouter le discrédit sur la personne. Jusqu'à présent, Froome a fait 2e du chrono. On peut dire aussi que le vainqueur du chrono est aussi positif. Donc, non, ça va trop vite. Le raccourci est un peu rapide.
Oui.
Après, c'est vrai.
On
s'est tous interrogés là-dessus. Ouais. Voilà, c'est tout.
Mais est-ce que un jour on va éviter le problème du dopage?
Mais
on n'évitera pas, il n'est pas question d'éviter et on a eu le débat hier soir,
on va pas avoir des débats tous les jours,
on va pas y revenir constamment dessus. Évidemment, Chris Froome aujourd'hui a réalisé une belle performance, pour l'instant on n'en sait rien, on ne sait pas ce qu'il y a et on ne sait pas s'il y aura quelque chose.
De toute façon, il est contrôlé tous les jours.
Oui, mais bon, Lance Armstrong aussi. Garcia. C'est pas, une, c'est pas, c'est pas, c'est pas du tout.
Non, hein, non, non, c'est plus, ça a changé depuis. Non,
mais tes arguments
sont
plus les autres. C'est les autres outils qui les bloquent. C'est pas.
Et oui.
Les contrôles en tant que tels, le contrôle pipi à l'arrivée, c'est un des outils. Mais il y a beaucoup plus puissant que ça dans le passeport biologique, les contrôles inopinés, la localisation. Vous savez, c'est pas évident de.
Et autour des courses, il y a quand même la tenaille de la police.
Oui, en
aussi.
Plus.
Oui. Ça, ça, ça on le dit toujours, hein, ça.
Très bien. Bon, en tous les cas, on a beaucoup abordé ce thème dans les jours.
En conclusion, aujourd'hui, on ne peut pas douter de Froome.
Voilà.
Oui.
Non.
Souhaitons qu'on ne soit pas déçu dans 10 ans ou dans 5 ans. Parce qu'alors là, messieurs.
Aujourd'hui, on ne peut pas
alors
douter.
Là, messieurs, je vous jetterai des pierres.
Tu seras à la retraite.
Alors là, si tu me jettes des pierres.
Tu seras à la retraite.
J'amène tous mes potes. Hein.
Alors, je vous jetterai. Non, vous savez ce qui s'est passé quand même aujourd'hui pour ce pauvre Mark Cavendish.
Non.
On lui a jeté du pipi dessus.
C'est minable. C'est franchement une attitude minable de la part des spectateurs. Quand on n'aime pas quelqu'un. On n'a pas jeté de l'urine sur les personnes ou des cailloux ou quoi que ce soit.
Nous sommes tout à fait d'accord, mais le phénomène.
Dans un monde parfait, effectivement, Thierry, ce serait ça. Hein.
Mais bon, il faut quand même dire qu'il fait quand même tout. Il fait quand même tout pour se prendre les colibets à longueur de journée.
Oh, attends, mince. Non, Cyril, je
suis pas d'accord. Est-ce que tu as vu cette vidéo qui doit être d'ailleurs sur le site d'RMC Sport hier soir, à son camion, à son bus, interrogé par des journalistes britanniques qui disaient alors, est-ce que tu as commis une faute dans le sprint ? Est-ce que tu as mis un coup de tête ? Est-ce que tu as mis un coup d'épaule ? Au bout d'un moment, il s'est énervé, il a arraché le magnétophone d'un journaliste, il l'a jeté dans le car. Parce que tu trouves que ça, c'est bien, par exemple ? Et tu trouves que le comportement qu'il a avec tout le monde,
le comportement qu'il a
dans les sprints, eh bien, il touche aujourd'hui les dividendes de son comportement, Cavendish.
Mais
c'est
oui,
tout.
Non, mais d'accord, mais vous pouvez cracher sur tout le monde.
Mais non,
mais
évidemment,
on ne
va pas cautionner ce genre de choses.
Péter les plombs aussi.
On va pas cautionner ce genre de choses, Thierry. C'est scandaleux. Et je demande à. Mais c'est pas la première fois sur le Tour de France. Cyril. Rappelons-nous, c'est ce terrible coup de poing au foie qui avait été asséné à Eddy Merckx, c'était quoi, dans les années 70 ?
Oui, dans la montée
les clous qui étaient jetés
dans la montée du Puy de Dôme.
Les clous qui étaient jetés sous les roues des coureurs il y a 100 ans,
l'an dernier.
C'est pas nouveau. Alors aujourd'hui.
Non, la connerie humaine, on peut pas la stopper.
Non, c'est pas. Tiens, écoutez justement à ce propos de Tom Stills, qui est le directeur sportif, l'un des directeurs sportifs de Mark Cavendish, revenir sur cette affaire. Lui, évidemment, est navré de ce qui se passe et ne comprend pas le comportement de certains spectateurs. On l'écoute. Tom Stills.
Ça, c'est une chose du cyclisme qu'on n'a pas habitué. C'est toujours gentil. Les supporters sont toujours pour tout le monde. Et j'espère que ce n'est pas un début. On n'a pas vraiment besoin de ça dans le cyclisme. Ça passe, c'est un sport très dur. Il y a des choses qui passent, qui sont vraiment dures sur la route. C'est une grande bataille, mais laisse les batailles entre les coureurs.
Voilà, on laisse la bataille entre les coureurs. Donc, carton rouge aux spectateurs qui ont insulté et arrosé ce pauvre Mark Cavendish. Et carton jaune, quand même, à Mark Cavendish pour son comportement hier, à la fois dans le sprint et à la fois avec les spectateurs.
Christophe, voilà. Je te rappelle que Mocassin a eu le même problème dans un sprint au Dauphiné. Mmh. Et dès qu'il a franchi la ligne, il a pété le nez à celui qui s'était relevé. Qui avait failli le planter. Parce que c'est franchement dégueulasse aussi de gêner l'adversaire comme ils le font, au risque d'envoyer tout le monde par terre. Ouais. Il faut pas. Bon,
enfin,
on a
revu encore les images avec Cyril tout à l'heure. Et franchement, je sais pas si c'est Villers qui gêne. Hein. Moi, je.
Bah, excuse-moi, il s'est relevé, il l'a dit, j'arrête de pédaler.
Et puis, on le voit jeter un coup d'œil derrière
pour voir qui gêne.
Thierry. Tu regarderas ne serait-ce qu'une photo dans le journal L'Équipe et tu verras où est la trajectoire. La photo, elle est monstrueuse.
Et tu fais parler les photos comme tu veux. T'as vu la vidéo,
les photos,
vue d'hélicoptère,
bah oui,
c'est pas la même chose. C'est pas la même chose.
Mais Cavendish, il avait la place de passer.
Cavendish, il a toujours la place, mais il a été gêné.
On va pas refaire le débat d'hier parce que c'était le sprint, c'était hier, aujourd'hui c'était le contre.
Il y a les torts partagés, l'autre il a été puni aussi. La prochaine fois il va se relever gentiment.
T'étais moins énervé hier soir, je sais pas ce qui s'est passé entre hier soir et aujourd'hui.
T'as pas vendu de vélo aujourd'hui ou
quoi? Il a mangé du lion,
le Thierry. N'aie pas peur, les vélos looks se vendent toujours aussi bien.
Voilà la pub, bravo.
Et justement tu m'oublies.
RMC, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour.
Et nous allons parier maintenant sur RMC, revenir sur les paris que nous avions faits hier soir sur cette 11e étape. On accueille Benji.
Les paris RMC. Tour de France.
Benjamin Ramager est avec nous comme tous les soirs, l'homme des paris, le roi des coteurs, le roi des parieurs. Salut Benji.
Salut monsieur.
Alors, il y avait deux hommes hier soir, en gros, sur lesquels parier. Effectivement, ils sont pas très loin l'un de l'autre. 12 secondes d'écart seulement, Benji, en faveur de Tony Martin. Alors, qui avait joué Chris Froome hier soir?
Alors, monsieur Luc Leblanc et mademoiselle Virginie Fulpin.
D'accord.
Tu avais joué Tony Martin, tout comme Cyril Guimard et Bourgui. Ça donne quand même des grosses conséquences, Christophe, au niveau du classement, puisque tu es désormais le seul en positif. Tout le monde est en négatif désormais, même Luc Leblanc qui est passé sous la barre.
Ça fait plaisir, il retrouve sa
place. Négatif.
Ça te fait plaisir que je gagne.
Tu es à moins 4 euros, oui, Lucho, oui. C'est le prix d'un sandwich, attention.
Ça va encore.
Bah, et moi, j'ai marqué des points quand même aujourd'hui.
Oui, oui, mais tu es toujours... Ah oui, d'ailleurs, tu es revenu à 5 points seulement du maillot vert de Luc Leblanc. Lucho, fais attention, le druide est dans ta roue.
Je suis loin là, de Christophe, là, le mec qui me suce la roue là, depuis quelques temps.
Tu es à moins 11 euros et Christophe est à plus 19, donc...
Ah ouais, quand même.
Mais donc, je ne parie plus avant lui.
Tu vas suivre mes conseils maintenant. Hein,
non, mais et n'aie pas peur, Cyril. T'as vu comme il est dans la roue et il ne prend plus aucun risque.
Je
ne
voudrais pas perdre mon maillot vert.
Mais oui, mais c'est comme ça qu'il se retrouve, leader.
Et ouais, exactement. Ouais. Je suis le roi de la stratégie, mon gars.
Nous, par contre, on est obligé d'en prendre.
Bah oui,
parce que sinon, on fait comme les Espagnols.
C'est une stratégie de rat, comme on dit dans le métier.
Alors, Benji, explique-nous pour demain. Alors,
Benji, ouais, parce que là, le Lucho, il est trop énervé. Là, il est battu.
Alors, on laisse parier le premier.
Benji, d'abord, tu vas nous donner les principaux favoris de cette 12e étape. Donc, demain, 218 km quand même, entre Fougères et Tours, c'est quand même l'endroit préféré des sprinteurs, la classique Paris-Tours, oui. Même si l'arrivée ne sera pas avenue Gramont demain, avenue de Gramont.
Elle fait que 450 mètres la ligne droite là.
Ouais, oui, elle, c'est visu, pas... mais bon. Ouais.
Bon, en tous les cas, il n'y a pas une bosse, c'est plat comme le dos de la main. Donc là, si les sprinteurs ne s'imposent pas demain, c'est à n'y plus rien comprendre. Benji.
Ouais, ils sont favoris évidemment les sprinteurs, mais c'est beaucoup plus serré que d'habitude. Pour la première fois depuis le début du tour, Cavendish a une cote supérieur à 2, 2,50, Greipel 3,30 et Kittel à 3,90, à 2,50 pour une fois, d'habitude je le joue pas à 1,60, mais là à 2,50 je suis obligé de prendre Mark Cavendish.
Oui, mais je vais te suivre moi aussi, tu vois. Voilà. Mais non, mais je prends pas de risque. Attends, Cavendish, il est énervé. On lui a jeté
de l'urine
dessus. Il a arraché le magnétophone. Il va être énervé demain, mais il va être énervé, tu vas voir. Il va tous les bouffer, Cavendish, demain. Voilà.
Je pense que Kittel va se relever, lui.
Ouais, tu crois? Alors, Thierry, justement, Kittel?
Non.
Allez, vas-y, prends des risques.
Greipel. Oui, parce que si je veux revenir sur toi, bien je suis sûr. Obligé de prendre des risques. Ouais.
Non, enfin là, faut que tu joues des plus grosses cotes, Thierry, si tu veux revenir sur Christophe.
T'appelles ça prendre des risques.
Faut que tu joues Sagan à 12 et là, tu pourras revenir.
Non, Christophe?
Oui.
50? À 50?
Christophe, il est à 50, exactement.
Eh ben oui, non, mais quand même. Il faudrait que ça se casse la gueule.
Je suis sûr que les coureurs nous écoutent si tu dis des choses pareilles.
Mais oui, mais il n'y a que
mais Christophe, il écoute souvent les paris.
Très bien. Messieurs, rapidement. Lucho.
T'as joué
rapidement, je t'ai dit. Rapidement, ça veut dire que t'as 10 secondes. T'as 10 secondes, autrement, tu n'as pas de paris.
Vas-y, fais le décompte.
Moi, je vais jouer parce que... Je vais jouer... Bon, alors, je vais aller très vite. Qui tel
Marseille, qui tel pour la passe de 3. Ouais, et Marseille, 2 et 3. Allez.
Bah ouais, Lucho. Moi, je vais jouer... Je vais jouer...
Allez.
Greipel.
Voilà.
Oh
bah, tu vois,
pas comme moi.
Voilà, Greipel comme toi. Virginie, je sais pas si elle est là.
Non, mais Virginie, elle m'a dit qu'elle jouait Mark Cavendish, évidemment. Bah oui, elle a un contrat avec l'Angleterre.
Très bien, parfait. On verra ça demain. Merci, Benji.
À demain.
RMC, toute une journée en une heure, c'est le meilleur du tour.